Bienvenue à cette deuxième table ronde du colloque Alliance et communauté en fantasy et science-fiction qui se déroule donc en collaboration avec le Festival international Métropolis Bleue. Je m'appelle Marion Gingras-Gagné, je suis doctorante en études littéraires et féministes à l'UQAM et je suis vraiment très heureuse d'animer cette table ronde qui portera sur les alliances et communautés imaginées. Pour l'équipe du colloque, donc pour mes collègues Pascal, Charlotte et moi, il était impossible de réfléchir aux enjeux des alliances et communautés sans inclure hein, les créatrices pour y réfléchir. Et aussi, pour ma part, dans le cadre de mes études, je m'intéresse tout particulièrement à la question des communautés féminines en science-fiction. Donc, je suis particulièrement ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec les trois autrices qui sont ici aujourd'hui. Donc, je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, nous avons Marie-Josée Martin. Bonjour. Marie-Josée Martin a grandi au Québec à une époque où les rampes d'accès passaient pour des objets insolites. Son deuxième roman, donc Un jour, ils entendront mes silences en 2012, a été couronné de quatre prix littéraires, dont le prix du Livre d'Ottawa. Elle a récemment publié L'ordre et la doctrine en 2021, donc premier tome de la trilogie d'anticipation féministe après Massalla. Et elle a aussi contribué à plusieurs collectifs, dont Raconter Vanier en 2017, consacré au quartier qui est le sien depuis une douzaine d'années à Ottawa. Elle écrit tout en exerçant le métier de traductrice-réviseuse. Donc, merci d'être avec nous, Marie-Josée.
Merci pour l'invitation.
Donc, on a également avec nous Élisabeth Bonarbour. Donc, Élisabeth Bonarbour est née en 1945 en France et elle vit à Chicoutimi depuis 1973. Elle est agrégée de lettres et docteur en création littéraire. Elle est aussi traductrice, animatrice d'ateliers d'écriture, directrice littéraire donc du magazine Solaris, essayiste et chroniqueuse et accessoirement écrivaine à plein temps. Donc, son œuvre compte bientôt une quarantaine de livres, dont 17 romans, 5 traduits en anglais, 6 recueils de science-fiction, dont 2 en anglais, 3 recueils de poésie. Elle accumule plus de 30 prix de la France, du Québec et du Canada et des États-Unis, pardon, dont 4 pour l'ensemble de son œuvre. Donc, merci d'être là, Elisabeth. Et finalement, on a la chance d'avoir avec nous Ayavi Lake, qui est née au Sénégal à Dakar. Après des études à Paris, elle s'installe au Québec. Et donc, les trois territoires du Sénégal, de la France et du Québec marquent ses récits. Son recueil de nouvelles, Le Marabout, paraît chez VLB en 2019, dans lequel elle donne chair au quartier de Parc Extension. Ce roman-là est également lauréat du prix des Horizons imaginaires de 2020. Et Ayavi enseigne à Montréal. Donc, bonjour à vous. Donc, quand on parle d'alliance et de communauté, on parle de regroupement, de solidarité, de commun, de vivre ensemble, mais on parle aussi d'inclusion, d'exclusion, d'espace, de frontières, de dynamique de pouvoir. Dans vos romans, vous faites tout intervenir la notion de communauté de différentes façons. Et donc, pour commencer, j'aurais envie de vous poser cette première question. Comment les communautés et les alliances prennent-elles forme dans votre travail? Comment les envisagez-vous? Donc, grosse question pour commencer, mais j'aurais envie de vous entendre à ce sujet-là. Élisabeth, voulez-vous commencer?
Ah oui, bon, alors, donc, je ne suis pas née en 45, je suis née en 47 quand même.
Je suis désolée, j'ai eu une mauvaise information dans ce cas-là.
Oui, comment est-ce qu'on écrit? Oui, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder à cette table ronde, c'est comment est-ce qu'on les écrit, ces récits de solidarité? C'est pas évident. Et bon, moi j'ai commencé à écrire dans les années 60, où ces sujets, disons, n'étaient pas exactement au premier plan de la science-fiction des genres. J'ai appris entre-temps. Et le problème, évidemment, dans notre culture, c'est la tension entre la solidarité, qui est indissociable de l'égalité, et le fameux individualisme dont on nous rebat les oreilles et qui nous achale depuis au moins depuis le XVIIIe siècle. Et c'est vraiment pour l'écriture, c'est toujours un problème parce que on a tendance à faire des récits avec une ou un personnage central qui est l'héroïne ou le héros et qui doit, selon les règles habituelles du truc, venir à bout des obstacles et triompher à la fin. Ce qui n'empêche nullement qu'une communauté soit l'héroïne ou le héros, mais d'un point de vue de l'écriture, ça pose des problèmes parce que les lecteurs lecteurs et les lectrices, les lectrices et les lecteurs, les lectrices doivent s'identifier à quelqu'un plus qu'à un concept. Et ça pose vraiment un problème au niveau technique. Évidemment, c'est un problème que le récit polyphonique peut aisément régler, mais c'est toujours, c'est difficile à gérer un récit polyphonique, un récit à plusieurs voix, à plusieurs points de vue, mais c'est certainement la seule façon dont on peut vraiment s'en tirer, me semble-t-il. Est-ce que je fais des récits de solidarité dans ce que j'écris ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Il y a des communautés, il y a des relations de type horizontal et non vertical, déjà, ce qui est nécessaire. Dans Le silence de la cité, qui était mon premier roman et que j'ai donc écrit à la fin des années 70, il y a une communauté de femmes qui sont des révolutionnaires, des révoltées, et qui veulent en découdre. C'est circonstanciel et ce n'est pas une solidarité universelle. Le problème de la solidarité, c'est qu'elle a fonction universaliste, mais qu'elle doit aussi, c'est une autre tension, être intersectionnelle, comme on dit maintenant. Et elles ne sont pas du tout intersectionnelles, ces bonnes femmes. Elles détestent les bons hommes et tout ce qu'elles veulent, c'est en découdre. Par contre, il y a un autre type de communauté dans le silence, c'est la communauté des enfants qui sont créés de façon un petit peu techno-bio, mais ça n'est pas le sujet que je développe, puisque j'ai un personnage principal qui est l'héroïne. Elle n'est pas fiable, elle a plein de tares, mais ça n'est pas un récit à plusieurs voix. Dans Chronique du Pays des Mers, j'ai essayé de faire un récit à plusieurs voix, puisque le Pays des Mers est une société qui se veut relativement égalitaire, même si des nécessités biologiques font que le statut des femmes et celui des hommes est très différent. Et là aussi, j'étais prise dans les critères que je m'étais fixés pour créer ce monde. Je n'ai pas tellement de récits de ce type pour l'instant. Je vais y penser.
Pour l'instant, donc. Mais ça, il demeure quand même, comme vous dites, que la communauté traverse quand même de différentes manières vos récits, même si ce n'est pas nécessairement à l'avant-plan. Bien sûr, en vous écoutant, je fais beaucoup de liens avec Marie-Josée Martin. Je ne sais pas si vous vouliez poursuivre par rapport à la communauté. Comment est-ce qu'elle prend forme dans votre travail?
Premièrement, la thématique que j'aborde dans L'ordre et la doctrine, elle est vraiment... Pas vraiment du constat que, dans le fond, l'individualisme est c'est la racine de la plupart des problèmes qui nous confrontent à l'heure actuelle, d'un point de vue social. C'est l'individualisme qui explique en bonne partie la crise écologique, parce que si on avait une conscience plus collective, capable de se projeter dans l'avenir, on aurait déjà résolu ces problèmes-là. Les difficultés que j'observe au niveau des familles, les femmes qui sont toujours à la course, des enfants qui sont bousculés, qui se promènent d'une maison, de la maison de papa à la maison de maman. Ça aussi, la racine de ce problème-là, c'est notre conception de la famille, c'est très individualiste. Alors, quand j'ai imaginé une société matriarcale, j'ai dit, il faut que ce soit une société ancrée dans le communautarisme. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches sur les sociétés matriarcales pour inspirer mon roman, et c'est ce qui se dégageait clairement, c'est qu'en général, les sociétés matriarcales étaient beaucoup plus communautaristes dans leur approche du monde. Et comme Elisabeth Vollenhauer le souligne, effectivement, écrire un roman à plusieurs voix, un roman choral, c'est un défi, par exemple, parce que ça amène un niveau de complexité au niveau de l'histoire pour l'écrire, mais aussi pour la personne qui le lit. Ça veut dire que bon, il y a une pluralité de personnages, c'est difficile de suivre pour la personne qui lit. Et pour l'écrire, le grand défi, l'approche que j'ai pour arriver à marier plusieurs voix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu le récit comme une tresse. Alors, il y a dans le fond trois perspectives et on se promène de l'une à l'autre dans le roman. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai réussi à voir cette pluralité des voix représentées dans le roman et montrer les différents aspects de la société. Alors, on peut voir comment ça se passe à l'intérieur de la Massalière, qui est une espèce de couvent où les femmes vivent, enfin, qui ont été choisies pour être mères, vivent en communauté et élèvent les enfants pendant les premières années de leur vie, avant que les enfants soient pris en charge par une autre communauté qui devient leur communauté professionnelle en fonction de leurs aptitudes. Alors, ces niveaux-là de communauté, il y a aussi, dans le roman, je montre la grande communauté internationale qui me semblait importante d'inclure parce que certains problèmes dépassent la portée régionale. Surtout si on parle d'écologie, il est important d'amener cette coopération internationale-là. Alors, il y a aussi cette couche-là de la communauté internationale. Comment on fait ça?
Merci beaucoup. Donc, vos deux œuvres, finalement, sont beaucoup plus dans une vision donc une communauté qui serait plus dans le futur. Et là, j'arrive à vous, à Yavi. Dans le fond, votre recueil de nouvelles, Le Marabout, est campé quand même dans un Montréal contemporain, mais on y retrouve beaucoup dans le fond, d'allusions à la magie, donc de réalisme magique. Mais malgré tout, la notion de communauté est vraiment quand même importante. Je ne sais pas si vous vouliez nous en parler.
Oui, donc moi je suis vraiment plus dans le réalisme magique, donc c'est sûr que le cadre est très réaliste. Je parle de Parc Extension, qui est un des quartiers les plus multiethniques de Montréal. Et ma façon de convoquer la communauté un peu, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile quand c'est un roman choral ou quand c'est plusieurs histoires. Moi, c'est des nouvelles dans lesquelles les personnages reviennent. Et Parc Extension prend corps à travers ces personnages-là, qui sont très hétérogènes. Donc ma façon à moi de convoquer la communauté, c'est à travers les préjugés que je vais pousser jusqu'au bout, les caricatures que je vais pousser jusqu'au bout, pour les détourner puis pour en faire autre chose. Parce que pendant longtemps, j'ai habité Parc Extension et parce que j'ai aussi été souvent interpellée par l'image négative qu'on en avait, par l'écho médiatique qu'on en donnait à chaque fois qu'il était question d'immigration, qui pouvait être un danger pour la langue française, etc. Donc, c'est plus à ce niveau-là que moi j'ai joué par rapport à une communauté, non seulement au niveau du parler, donc du parler français, de cette diversité qui finalement se réunit dans la langue française, mais aussi au niveau du ressenti de tous ces personnages qui viennent d'horizons différents, mais qui se retrouvent dans Parc Extension. Mon autre façon aussi d'aborder la communauté, c'est beaucoup dans certaines nouvelles que j'ai publiées. De façon éparse, mais dont le fil continu reste la mémoire ou le retour aux figures féminines africaines historiques qui ont été un peu oubliées, puis que j'aime convoquer dans différents récits. Et à travers ces récits-là, ben, il y a une forme de solidarité, et surtout il y a une forme de mémoire, parce qu'au fond, elle représente une communauté, même si c'est à travers plusieurs siècles.
Merci beaucoup. Donc, dans le fond, en écoutant vos réponses, je voudrais revenir à l'idée de l'espace et du lieu, donc qui inclut nécessairement des frontières, donc peut-être de Parc Extension par rapport aux autres quartiers pour vous à Yavi. Dans votre roman Marie-Josée, on parle beaucoup donc de ce lieu de la Massalière qui est un lieu fermé qui se situe au centre de la communauté. Et bon, Elisa von Arbour, je pense évidemment au Silence de la Cité, mais aussi aux Chroniques du Pays des Mères où il y a vraiment une tension entre la communauté des femmes et donc tous les territoires sauvages auxquels on ne doit pas du tout, où on ne doit pas aller, en fait. Donc, j'aurais voulu vous entendre peut-être plus sur la question de l'espace et des frontières.
C'est effectivement encore une autre des tensions, mais c'est bien, l'écriture et la création se nourrissent de tensions. La solidarité, c'est ça aussi, c'est que il y a un type de solidarité qui est, comment dirais-je, centripète, refermée sur elle-même, et qui exclut. Alors à ce niveau-là, ça n'est plus de la solidarité, mais elle existe. Je pensais par exemple à la communauté médico-légale et la façon dont elle se protège. C'est une solidarité. C'est une solidarité fermée et centripète. Et puis il y a la solidarité centrifuge, celle qui accepte que le dehors et le dedans se rencontrent. Et celle-là, elle est beaucoup plus c'est la solidarité, je dirais, chaude, par opposition à la froide, oui, où il n'y a plus cette notion de il y a nous et il y a les autres, où je suis l'autre. Parce que la solidarité est absolument indissociable, me semble-t-il, de la rencontre avec l'autre, avec l'altérité. Et ça pose tout un tas d'autres problèmes qui sont connexes et qu'on ne peut pas éviter non plus.
Marie-Josée?
Intéressant. Pour moi, je fais souvent des rapprochements entre l'être humain, comment on est dans le monde, et le microscopique. Alors, si on regarde au niveau cellulaire, une cellule en elle-même, il y a beaucoup d'éléments et elle fonctionne grâce aux interactions de ces éléments-là. Alors, la cellule, on peut dire qu'elle est fermée comme une communauté, mais la cellule interagit toujours avec autre chose dans un corps humain. C'est la même chose. Une communauté, pour être saine, pour être dynamique, doit toujours interagir avec des choses à l'extérieur. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai conçu la massalité, alors le monde massalé. Et c'est que quand j'imaginais l'histoire, bon, la massalière est un milieu très, très fermé. La culture massalaise est aussi une communauté très, très définie. En premier temps, on ne voit pas nécessairement beaucoup qu'il y a autre chose à l'extérieur, mais ça va venir. Et pour moi, c'est d'un point de vue dramatique, c'est intéressant de voir ces interactions-là, mais c'est juste aussi normal. Même quand on est en communauté, il y a toujours des interactions avec le dehors, et c'est ça qui nous permet de grandir, d'évoluer.
Merci. J'ai hâte de lire les prochains tomes dans ce cas-là. Je suis très curieuse. Et vous, Ayavi, donc, par rapport aux frontières, vous en parlez beaucoup dans votre recueil de nouvelles. Comment est-ce que les espaces aussi s'opposent ou se mêlent? Donc, pouvez-vous nous en parler?
Oui. Pour moi, par extension, géographiquement est déjà assez... en temps normal, là, dans la vraie vie, est déjà assez... c'est un territoire très délimité. Bon, on a le parc Jarry, on a Ville-Mont-Royal de l'autre côté. Et dans le livre, j'aimais beaucoup jouer sur ce fait-là. Puis à un moment donné, je parle des habitants de Villeray pour lesquels la frontière, c'est le parc Jarry. Puis passer la frontière du parc Jarry, c'est... Quelle horreur, je suis dans le monde des étranges. Et j'ai beaucoup joué sur ça. Et la solidarité se passe dans Parc Extension, dans le sens où toutes les références à la spiritualité ou à la sorcellerie, ben, c'est entre gens de Parc Extension qui comprennent que dans Parc Extension, c'est spécial, donc qu'il va se passer des choses spéciales, puis que les gens autour, dans Villeray ou ailleurs, sont complètement exclus de ce réalisme magique-là qui se passe. Mais on a quand même des personnages qui vont quitter l'extérieur, qui vont arriver dans cette zone-là de sous-entendus et qui vont essayer de comprendre ce monde-là. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée que ma solidarité à moi, en tout cas dans mes écrits, dans les espaces dans lesquels on met, entre guillemets, les exclus. Parce que si on n'est pas capable déjà d'être solidaire dans ces zones d'exclusion-là, ben, c'est très difficile de l'être par rapport à la... par rapport à l'adversité ou par rapport à autre chose.
Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé, Ayavi, de réalisme magique. Vous, Marie-Josée, Elisabeth, c'est vraiment des sociétés, en fait, par la science-fiction, par la fantasy, vous avez l'occasion de représenter autre chose, donc vous avez une liberté de représentation qui est quand même vraiment fantastique. Comment vous prenez cette liberté-là pour transformer les communautés, pour les rendre... en fait, on a parlé un petit peu, Marie-Josée, entre autres, avec l'idée vraiment de commun et tout ça. Mais comment vraiment le genre de la science-fiction, de la fantasy vous permet, en fait, d'aller au-delà de la réalité? Ou comment est-ce que vous, au contraire, travaillez ces idées-là de communauté et d'alliance? Pourquoi le choix de la science-fiction et de la fantasy? Ou du réalisme magique. Marie-Josée, voulez-vous...
Oui, d'accord. une des choses que j'ai toujours aimé de la science-fiction, c'est sa capacité, de nous permettre de mieux réfléchir au présent parce qu'elles nous permettent de nous prendre de prendre une distance. Des fois, on dit toujours qu'on a besoin de recul pour réfléchir à quelque chose. Et c'est ça, là. En se projetant dans l'avenir, on peut regarder, on peut questionner des situations courantes et la lectrice ou le lecteur ne se sent pas menacé. On ne le critique pas. On parle d'une société imaginée qui est dans l'avenir. Et pour moi, cet aspect-là de la créativité, il y a aussi l'aspect additionnel que je pense qu'il est important de stimuler la créativité des gens pour nous aider à justement aller vers l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de pessimisme à l'heure actuelle. Et je pense que le pessimisme est dangereux. Il y a le danger de si on ne croit pas que l'avenir peut être meilleur, on ne travaillera pas à améliorer les choses. Alors, j'ai utilisé la SF pour montrer que, oui, il est possible d'imaginer une société où les choses seront différentes et où il y aura une certaine harmonie sur que je ne prétends pas que la société que j'ai imaginée, c'est ça qu'il faut faire. Là. Mais l'idée, c'est juste de défaire un peu les schèmes mentaux qu'on a. Quand on grandit dans une culture, on est habitué à penser d'une certaine façon. J'ai grandi dans un patriarcat. Ça m'a pris du temps à me rendre compte ce que ça voulait dire pour ma pensée, comment ça m'a structuré comme personne, le fait d'avoir grandi dans une société patriarcale. Et écrire de la SF, c'était une façon de vraiment me libérer, d'enlever ce carcan-là, puis de dire, OK, si je me débarrasse de ça, qui est-ce que je peux être? Qui est-ce que nous pourrions être comme être humain avec un autre mode de pensée. Et j'ai projeté ça jusque dans la langue parce que pour moi, une culture différente voudrait dire nécessairement un parler différent. Alors, même si mon livre est écrit en français, j'ai vraiment poussé le plus loin possible la langue, je l'ai transformée en mettant un troisième genre même, un genre neutre, en créant des mots nouveaux. Alors, j'ai essayé tout ça dans le but de, c'est ça, de briser les mots.
La langue, c'est quelque chose que vous avez en commun avec Élisabeth Von Arbour pour l'œuvre Chronique du Pays des Mers. Mais ce que vous disiez par rapport à donc, de construire une société meilleure, vous avez mis en place donc une société qui émerge après le déclin d'une société, oui. Donc de notre société qui aurait été détruite par des catastrophes écologiques, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que c'est un peu l'idée de faire un peu un renouveau, de repartir sur des nouvelles bases?
Oui, parce que je pense que il est difficile d'imaginer une société matriarcale émerger de façon spontanée s'il n'y aurait pas une rupture avec dans le monde actuel. Je ne voyais pas comment amener ça de façon progressive. Ça demande quasi, parce que c'est tellement une coupure importante avec qui on est en ce moment. Alors, d'avoir une série de catastrophes écologiques et politiques, ça permettait vraiment de dire, OK, on fait table rase et on recommence.
Élisabeth, je viens vers vous.
Non, je vais laisser la parole à Yavi.
Non, mais je peux laisser la parole à Yavi, mais en même temps, j'aurais envie de vous entendre aussi sur l'usage de la science-fiction. Il y a également eu bon, une coupure, entre autres dans les œuvres, mais en fait, le silence de la cité, qui était une société peut-être plus problématique, et éventuellement qui a mené au Pays des Mers. Mais il y a quand même eu différents régimes qui se sont succédés pour finalement arriver à cette société matriarcale, dite oui, utopique, même si...
Non. La différence, c'est que j'ai écrit ça dans les années 70, c'est que vous écrivez dans les années 4, dans les années 20.
Oui, c'est intéressant donc, d'avoir
ces deux perspectives. L'idée de la rupture et du collapse, enfin de l'effondrement, etc., même s'ils ont les mêmes sources finalement dans ce que j'ai écrit, dans ce que vous écrivez, la position du lectorat par rapport à ces concepts est complètement différente. Non, moi je voulais rebondir sur la notion de recul. Parce que toujours du point de vue de l'écriture, c'est le problème des récits de solidarité, des récits où on a un engagement politique. C'est un engagement politique, OK? On va mettre ça sous ce chapeau-là et on est d'accord. C'est que on n'est pas là pour justifier ses choix politiques. On est là pour raconter une histoire qui va permettre à l'autre en face, aux autres en face, de réfléchir sur leur choix et non pas de nous donner un certificat de vertu à propos des nôtres. Bon. Et la plupart, le problème de la plupart des récits de solidarité ou des récits, disons, engagés politiquement, c'est qu'ils ont, comme j'ai lu quelque part, le nez dans le guidon, c'est-à-dire qu'ils sont là et il manque beaucoup, beaucoup de recul. On a le ou les personnages méritants qui enfin, c'est des récits, comment dirais-je, de bonne sœur. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que c'est difficile de... Je vois pas pourquoi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on devrait être solidaire juste avec les bons. Hein, encore une fois, la solidarité doit être non exclusive et ne pas juger moralement. Or, il y a toujours une espèce de jugement moral dans ces textes qui m'horripile. En tout cas, voilà, c'est ça. Je voulais juste rebondir sur cette notion de recul, non seulement entre le moment où moi j'ai écrit mes histoires à moi et vous, le moment où vous écrivez les vôtres, mais aussi la distance intrinsèque de la science-fiction que vous avez très bien décrite, qui nous permet ce recul. Et quand je vois des récits de science-fiction qui n'utilisent pas cet outil extraordinaire de recul, ça m'énerve.
Merci. Bon, Ayavi, donc je viens vers vous aussi, même si votre récit est quand même plus réaliste, il y a le réalisme magique qui est très présent, et vous faites aussi intervenir des figures hein, comme le marabout, entre autres du Sénégal. Comment ce médium-là vous permet vraiment d'explorer les questions de la communauté ou juste d'autres sujets là, que vous voulez aborder?
D'abord, je voulais juste revenir sur l'appellation de réalisme magique. Moi, quand j'écrivais, quand j'étais dans mon processus d'écriture, c'est après, quand le livre a été publié, que j'ai été, pas cataloguée, c'est négatif, mais que j'ai été, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, des personnes en recherche vous ont dit, c'est du réalisme magique.
Exactement. Mais moi, dans mon processus d'écriture, je n'appelais pas ça réalisme magique. Évidemment, j'étais consciente d'être dans un univers complètement différent de ce qu'on pourrait lire au Québec ou en tout cas. Mais moi, j'ai grandi avec cet univers-là. J'ai grandi avec des. Pour moi, c'est du réalisme. C'est pas du réalisme magique. C'est quand je parle de cette spiritualité-là, du marabout, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi qui sont juste normales. Donc après. Je ne me plains pas d'avoir l'étiquette de réalisme magique, ça me convient tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était une façon d'apporter une autre façon d'aborder l'histoire, d'aborder la conception du monde, d'aborder la façon dont on voit les choses. Et j'ai essayé aussi de un peu moins dans le marabout, mais surtout dans les autres textes, d'introduire, j'en parlais un peu tout à l'heure, des femmes issues de la communauté africaine qu'on connaît moins, dont je fais revenir l'esprit, parce que ça m'intéresse de savoir ce que ces femmes-là auraient pensé de la société d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, de ce que les femmes font de leur monde aujourd'hui. Donc, voilà.
Merci, et merci aussi de nous dire... dans le fond, votre démarche, parce qu'effectivement, avec nos yeux de critique ou de littéraire, on a tendance parfois à mettre des étiquettes sur les œuvres. Donc, voilà, un réalisme qui peut être un réalisme magique, donc c'est peut-être plus juste. Donc, peut-être j'aimerais ça revenir sur une idée, en fait, qui est beaucoup dans la communauté ou dans le commun, qui est l'idée du rite, des rituels, qui touche aussi à la question de la spiritualité, de la religion, qui est quand même bien présente dans vos œuvres. En quoi est-ce que le rituel, les rites, peut-être viennent teinter votre idée de la communauté? Je pense tout de suite à Marie-Josée parce que donc, dans votre lieu d'ambassadeur, entre autres, il y a tout est très ritualisé, donc le passage de la jeune fille à l'âge adulte, donc jeune fille qui est toujours déconstruite, qui va donner éventuellement une mère. Donc il y a beaucoup de rituels et tout ça, je pense, vient enrober finalement ces passages-là vers l'âge adulte. Est-ce que vous voulez nous en parler?
Oui. Pour moi, c'est une perte hein, de la société moderne québécoise en, en évacuant la religion, on évacue le rituel. Et le rituel, c'est une façon de donner du sens. Hein. Les grands passages de la vie, on les célèbre, on se marie, on a une fête. Hein. Il y a tout un protocole. Et c'est une façon de marquer ces moments-là, ces moments forts de la vie et d'aider à donner un sens à la vie. Et on sait, les études en psychologie le montrent, que cette capacité-là de donner un sens, c'est tellement important à notre bonheur, à notre équilibre, comme être humain. Quand on n'a pas ça, ces repères-là, on se cherche davantage. Alors, pour moi, c'est pour ça que j'ai fait une place si importante au rituel dans mon histoire et aussi à la spiritualité, pardon, à la spiritualité au sens plus général qui est représentée par les petits paragraphes en tête de chapitre, les petits exergues de chaque chapitre qui sont tirés de la Kiva qui est la Bible de la société massalaise.
Merci, Elisabeth. Mais c'est, évidemment, je reviens aux deux mêmes œuvres, mais dans d'autres moments aussi, tu avais fait, il y a quand même une importance qui est donnée, ne serait-ce qu'à la religion ou aussi au rituel.
Mm-hmm. Oui, ben oui, comme disait Marie-Josée, le rituel est essentiel aux communautés. C'est par le biais des rituels que les communautés, et c'est comme ça que la religion a pris la place qu'elle a prise, parce que dès le début de l'humanité, on s'en rend compte avec les découvertes archéologiques présentement, ça remonte à plus de 8000 ans, ça remonte à 12, 13, peut-être 15 000 ans, les rituels religieux étaient ce qui a fondé les communautés. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le fait qu'ils savent créer des communautés et alors là, elles ont décidé qu'elles auraient une religion. Non, apparemment, le besoin de rituels qui permettaient la communication entre les différents groupes, qui effaçaient les rivalités pour les ressources entre les différents groupes, puisqu'on se rend compte par exemple que ces rituels très anciens comprenaient des festins absolument délirants. Bon, et c'est pour ça que l'agriculture a été obligée de se développer. Bref, je vous laisse tout ça, vous pouvez faire des recherches, Google est votre ami. Et c'est ça. Et je suis très, très sensible aux rituels. Tout ce qui est façon de... Parce que le rituel, c'est, comme vous disiez, c'est de donner un sens. Je le traduis, moi, par tout ce qui est susceptible de réenchanter le monde pour une culture, une société, un groupe, même une famille. Ça me paraît essentiel. Parce que justement, vous parliez de la cellule tout à l'heure, et j'aime bien la métaphore biologique. Parce que nous sommes constamment en communication avec notre environnement. Et le péché du néo-capitalisto-libéralo-machin, c'est de nous avoir fait totalement oublier cette porosité des individus. Le je me moi, ce n'est pas seulement moi, c'est mes proches, c'est les proches de mes proches, après c'est le cosmos. Donc, fondamentalement, nous devrions être naturellement solidaires. Alors, comment est-ce que nous ne le sommes pas? En fait, nous le sommes, mais il y a tout un tas de rituels extérieurs à nous, qui sont des rituels développés par les systèmes qui nous dirigent et qui nous en empêchent, et c'est plate, révolution.
Oui, j'ai un peu l'impression aussi, en tant que lectrice, quand j'ai lu vos œuvres, que le renouveau du monde, ou du moins le renouveau de la communauté, devait passer absolument par une recherche de sens qui venait peut-être justement aider à reprendre corps, à reprendre vie. Donc, cette importance-là était quand même assez marquée. Mais vous, Ayavi, par rapport à cette idée-là de rituel, peut-être plus subtil aussi dans votre recueil de nouvelles, mais quand même, avec bon, le marabout, entre autres, il y a cette question quand même là, de rituel.
Oui, mais je pense que dans le marabout, il y a deux choses. Il y a le rituel, puis il y a la notion de spiritualité. Pour moi, le rituel, dans le marabout, je mets en scène mon processus d'écriture, donc je mets en scène une auteure qui a son rituel. Puis son rituel à elle, c'est de s'habiller en homme, de se transformer en homme, d'avoir l'impression d'être un homme avant de pouvoir créer ses personnages puis les faire vivre. Et pour moi, c'était important parce que j'ai l'impression que ce rituel-là, dans ce sens-là, engendre la création. C'est parce qu'il y a ce rituel qu'on se met dans le contexte de création, puis qu'on arrive à faire vivre des personnages, puis à aller chercher ce dont on a besoin. Et dans le marabout, quand le personnage se transforme en homme, ben, il a trois références, c'est Serge Bouchard, c'est Wole Soyinka, c'est Ousmane Sembène. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce sont des hommes qui l'ont marqué dans son parcours et qui touchent à des arts qui vont l'influencer. Puis la deuxième chose, c'est par rapport à la spiritualité. Le marabout, c'est par essence un personnage spirituel qui, en Afrique de l'Ouest, ben, au Sénégal, en tout cas, va un peu intercéder entre les hommes et ce qu'il y a de plus grand en haut. Et c'est important pour moi dans mes récits d'avancer ce genre de personnage-là. Ici, c'est le marabout, puis dans d'autres récits, ça va être les divinités issues de la cosmogonie nigériane, parce que c'est une autre façon de voir le monde que je n'ai pas retrouvée beaucoup dans mes lectures, dans mon parcours. C'est une autre façon d'aborder les réalités que je ne retrouve quasiment pas. Et quand je les retrouve, souvent, ça va être dans des livres qu'on ne fait pas forcément lire ou qui sont vraiment en marge. Et je trouvais important non seulement de les mettre en avant, mais aussi de montrer comment, je pense que ça a été dit tout à l'heure, comment est-ce que c'est... ça permet de s'accrocher à quelque chose, finalement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, de s'accrocher à quelque chose, mais quelque chose de différent de ce à quoi on est habitué.
Merci beaucoup. J'aurais envie de rebondir sur une chose que je pense, Elisabeth, vous avez dit. C'est vraiment le rapport peut-être à la famille. Donc, quand on pense à la communauté, on pense nécessairement à peut-être le vivre ensemble ou la famille ou une famille différente, une reconfiguration de la famille. Puis là, évidemment, à Yavi, quand vous parlez du secteur de Parc Extension, il y a nécessairement d'autres liens qui se créent entre les personnages que celui de la famille nécessairement traditionnelle. Dans les œuvres aussi, Marie-Josée Martin et Isabelle Bonarbeau, vous avez des conceptions de la communauté qui brisent un peu les formes de la famille traditionnelle. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
OK. Oui, il y a une décision très, très consciente de ma part de briser la famille traditionnelle quand j'ai écrit Masala, parce que la famille telle qu'on la conçoit à l'heure actuelle laisse pour compte tellement de gens. On vient de traverser une pandémie, on s'est rendu compte à quel point c'était... Il y avait une souffrance au niveau des personnes âgées, combien sont décédés parce qu'on les parque dans les institutions. On fait ça avec plein de monde. On fait ça avec les personnes en situation de handicap qui ont un handicap très, très lourd. On les parque dans des foyers de groupe. Ça, c'est notre idée de la famille. Alors, je voulais casser ça, casser cette image de la famille telle qu'on la conçoit pour avoir quelque chose de plus inclusif, dans le fond, où les personnes de tous âges, de toutes conditions, peuvent s'épanouir sans être mises de côté. C'est une exploration que je vais continuer. Dans le fond, c'est une exploration qui... C'est un fil conducteur dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. C'était vraiment très, très présent dans « Un jour, vous entendrez mes silences ». C'est le problème de l'isolement social. Je l'explore dans l'ordre et la doctrine. Je vais continuer de le faire de façon plus approfondie. Mais oui, c'est vrai. On pense souvent dans notre société, la famille, c'est être ensemble, mais il y a l'envers de la famille qui est aussi isolée. T'sais, qui on inclut pas dans la cellule familiale?
Et également, je reviens encore à cette fameuse massalière qui je pense qui m'obsède un petit peu. mais donc, ce lieu-là où finalement, non seulement il y a une nouvelle famille finalement qui se crée, mais il y aura comme plusieurs femmes qui vont finalement élever plusieurs enfants. Mais il y a aussi le couple, en fait, le couple tombe. Donc, on ne retrouve pas des cellules de couple traditionnelles, si je peux dire, hétéronormatives, où est-ce qu'il y aurait... absolument, donc une femme par couple. Donc, ça isole beaucoup les femmes également. Donc, vous avez quand même joué avec cette idée-là de briser le couple.
Ouais. Oui, oui. Parce que la famille et le couple vont de pair hein, dans notre culture. Une famille, en général, a son cœur, c'est le couple, même si dans les faits, on a de la monoparentalité, mais le modèle, ça reste encore un binôme et hétérosexuel, selon la norme. Alors oui, pour moi, c'est important de jouer avec ça. Et bon, il y a la Massalière, mais aussi dans les communes où les gens vivent. Le couple est possible, mais il est conçu de façon beaucoup plus fluide que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est plus passager. Et même si l'éducation des enfants, une fois qu'ils partent de la Massalière, là, vers l'âge de rêve, ce qu'on appelle l'âge, autour de 7 ans, quand ils joignent une commune, ils sont confiés à un binôme, mais ce n'est pas un binôme amoureux, ce n'est pas un couple au sens spirituel, familial, tout ça. C'est vraiment j'appelle parrain et marraine, mais ce sont des adultes qui sont là pour guider, pour offrir une stabilité, qui s'engagent à être là dans la durée. Ce que, avec la famille telle qu'elle se vit en ce moment, on n'a pas toujours. Les enfants ont besoin d'une stabilité et en ce moment, en fait, c'est souvent le chaos avec notre mode de vie actuel. Du moins, d'après ce que j'observe. Je ne suis pas mère, alors peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais c'est ce que j'observe. Dans ma famille élargie, chez mes amis. Ouais.
Merci, Elisabeth. Concernant la famille, le couple, avez-vous des réflexions par rapport à ça?
Oh oui. Tout ce que j'écris est à propos de relations entre les parents et les enfants, dans toutes les permutations possibles, les dominants, les dominés, dedans, dehors, bon, bref. C'est la famille mono, la famille nucléaire est une invention relativement récente. Elle est même très récente. Quand on regarde les communautés, je reviens à Google et mon ami, quand on regarde les communautés préhistoriques, par exemple, on se rend compte que c'était des petits groupes qui allaient d'une dizaine à une vingtaine de personnes, et ce mini-village élevait les enfants. D'ailleurs, les enfants, à un moment donné, on n'était pas trop sûr de qui était le père, donc la mère. Mais ça, c'est une autre histoire. La famille, c'est quand même ça. Qu'est-ce que c'est une famille ? C'est un milieu où on a des rapports de solidarité et de soins, où on prend soin les uns des autres. Pendant un certain temps, c'est des parents aux enfants, et après, c'est les enfants aux parents. Et il y a un moment où les parents et les enfants sont à peu près au même niveau, et c'est super. Bon, enfin, je suppose. Mais on nous a persuadé que c'était en fait un rapport de propriété. Et ça, c'est ce qu'il faut modifier, n'est-ce pas ? Depuis le pater familias qui a droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants, et qu'il l'a encore dans certaines cultures, c'est quelque chose qu'il faut absolument briser, ça. Et c'est en rapport avec tout le reste, évidemment. On ne peut pas se contenter de briser ce petit bout-là. Il faut tout briser, révolution. Donc oui, la famille, pour moi, c'est important dans la mesure où c'est un microcosme, justement, de tous ces rapports verticaux qu'il faut changer et qu'il faut rendre plus horizontaux ou du moins à verticalité, biodégradable ou modifiable. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que beaucoup de textes de science-fiction font. Depuis très longtemps, on trouve des familles qui sont des familles polyamoureuses, des familles où l'amour n'a pas forcément un rôle essentiel à jouer, qui sont des familles d'affinité, qui sont des familles de complémentarité, de capacité. Donc, la science-fiction a beaucoup exploré ces domaines-là. Et c'est un des domaines où elle fait des choses intéressantes. Et puis aussi, c'est celle où elle fait des trucs totalement... Papa, maman et bébé vont faire les courses en l'an 3000 dans leur petite moto, voiture atomique.
Merci. Ayavi, dans votre recueil, il y a vraiment... il y a comme deux temps. On a dans la famille, donc de la narratrice, de l'écrivaine. Et ensuite, il y a la famille un peu créée par les gens du quartier. Voulez-vous nous en parler?
Oui, j'ai beaucoup aimé l'expression famille d'affinité parce que c'est ça dans le marabout. Donc, on a la mère qui est monoparentale, qui a ses deux enfants, mais on a toutes les petites familles qui sont créées autour. Mettons, je vais mettre en scène deux personnages. Cette dame qui vient de Parc Extension, puis qui va rencontrer sa Québécoise de souche qui vient d'Hochelaga, puis en temps normal, ben, elles n'auraient aucune raison de se rencontrer, ben, elles vont former une famille. Puis on a cette femme originaire du Mali qui va faire découvrir le monde autochtone à une autre Québécoise pure laine. Et donc, ça va créer aussi une autre famille. Donc, pour moi, c'était plus la notion de transmission, d'échange qui m'intéressait. C'est vraiment comment est-ce que par la transmission, par l'échange, on peut être capable de se créer une famille, de se créer des gens de qui on va être beaucoup plus proche que son père, sa mère, etc. Je pense à l'autre personnage qui est autochtone, enseignant, puis qui va faire la connaissance de la statue d'un ancien combattant qui s'avère être vivant par moment et qui va aussi créer une famille. Donc, c'est vraiment dans la transmission, dans l'échange que je pense que je vais chercher les rapports familiaux.
C'est vraiment intéressant, comme si justement ces familles-là peuvent se mélanger, donc peuvent exister aussi parallèlement. On peut avoir plusieurs familles. Donc, merci beaucoup. Je voudrais peut-être sortir un peu de vos œuvres et de votre travail sur mes livres pour en fait aller à votre statut d'autrice. Le travail d'auteur, d'autrice est souvent solitaire et on est à la recherche peut-être d'une communauté. Comment vivez-vous justement ce rapport-là entre le travail d'auteur, d'autrice qui demande donc de la solitude et la communauté dans laquelle vous êtes, vous prenez part. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est justement c'est en tension avec votre travail d'autrice?
Il y a une nouvelle de Camus où il dit, enfin, ça se termine par c'est un peintre dans un grenier, et on trouve sa dernière toile où il y a marqué solitaire, solidaire. Il n'y a qu'une seule lettre entre les deux.
Est-ce que ça veut dire que les écrivains sont seuls mais ensemble?
Nous sommes avec le monde déjà, enfin.
Oui, parce que pour écrire, je pense qu'il faut aimer le monde pour arriver à créer des bons personnages. Ça suppose que on est de fines observatrices de la réalité, des êtres humains qui nous entourent. Alors, ouais, j'aime bien ça. Solitaire, solidaire. Une des choses que j'entends fréquemment, c'est à quel point la pandémie, elle a eu l'effet d'isoler les auteurs, les autrices. Parce qu'il n'y a pas eu de salon du livre, on n'a pas eu d'occasion de se rencontrer pour échanger de façon spontanée. Zoom est merveilleux, mais ne permet pas nécessairement ces échanges spontanés qu'on pouvait avoir autour des salons du livre. Et moi, comme autrice, pour essayer de combler ce vide-là, ce que j'ai fait, il y a à peu près un an maintenant, c'est que j'ai créé un petit groupe, un petit cercle d'autrices. Alors, on se rencontre à peu près virtuellement, une fois par mois, pour échanger juste notre démarche, ce qu'on en est. Et ça aide à nourrir notre démarche. Moi, ça aide à nourrir ma démarche, à me garder enthousiaste. On ne peut pas nécessairement parler du travail d'écriture avec n'importe qui, parce qu'à moins d'être engagé soi-même dans ce travail-là, on ne peut pas comprendre à quel point ça vient nous chercher de façon très profonde. C'est quelque chose qui, même si on n'est pas 8 heures par jour, 8 heures de travail en train d'écrire, ça nous habite constamment. Les personnages nous habitent. Les livres qu'on devrait avoir commencé à écrire nous habitent bien avant qu'on ait mis le premier mot sur papier. J'entends quelque chose de nouvel, comme récemment, Toronto, une femme handicapée qui vit dans la pauvreté abjecte des sociétés chimiques, parfois à trouver un logement qui lui convient et elle a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'elle n'est pas capable de se loger de façon convenable. Alors, ça m'habite. Dans ma solitude, tout ça, ça m'habite. Et je me dis, ah, peut-être qu'un jour, il y aura une histoire que je vais écrire à partir de ce petit reportage. Alors, ouais, solitaire, solitaire.
Oui, et en même temps, peut-être solitaire, mais habité par toutes les histoires, tous les personnages, tout le monde que l'on explore. Ayavi, pour votre part, la question de la solidarité et d'être solidaire, qu'est-ce qu'il y en est?
Je pense que moi, j'ai besoin de beaucoup de solitude pour travailler, mais d'être en contact avec des enfants, des adultes, le monde du travail, ça m'apporte beaucoup de lumière parce que j'ai réalisé que quand je suis enfermée dans ce processus d'écriture, qui n'est pas toujours drôle, où même si on essaie d'apporter de l'espoir, comme disait Marie-Josée, parfois c'est parfois difficile d'aller chercher l'espoir soi-même. Ça m'apporte beaucoup de lumière, moi, de sortir de ce cadre-là, même si je suis toujours à l'affût, on est toujours interpellé par plein de choses. De parler à des vrais gens, de voir des vrais gens, ça fait qu'on se dit, OK, j'ai presque envie d'utiliser le mot paranoïa, mais ce n'est pas le bon mot. C'est que moi, en tout cas, quand je suis trop dans ce monde-là, c'est comme si je calquais ce qui se passe dans ma fiction, dans mon réalisme magique, à ce qui est dans la réalité. Ça, c'est très dangereux et c'est presque souffrant. Donc, ça fait du bien d'aller prendre de l'oxygène puis de dire, OK, ce n'est pas si pire. Puis, on peut remettre de l'espoir dans notre récit.
Merci, effectivement, parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos aides de papier, parfois des vrais humains, ça fait du bien.
Donc, oui, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci aux panélistes, Ayavi Lake, Marie-Josée Martin, Élisabeth Van Arbour, mais aussi à notre animatrice Marion Gingras-Gagné pour cette discussion fascinante.